France Inter, le 18-20.
On est comme ça, nous, les Français, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme dirait qui vous savez. Et le flou autour de ce prélèvement à la source a ranimé notre suspicion naturelle. Les questionnements venus d'en haut ont semé une sorte de doute et d'anxiété. Dès qu'on touche à nos impôts, de toute façon, on a le sentiment qu'on est en train de nous arnaquer. Il est temps ce soir de tordre le cou à tout ce que vous voulez. Les questions sont toutes bonnes à prendre, alors profitez-en, allez-y, c'est maintenant. Comment ça se passe pour mon conjoint et moi avec le quotient familial et la part des enfants? Elle est calculée chez lui, elle est calculée chez moi. Est-ce que quelque chose va changer? Comment ça se passe s'il y a un gros écart de salaire entre moi et mon conjoint? Puisque j'ai des revenus fonciers très importants, est-ce que je vais devoir le signaler aussi à mon employeur? Est-ce qu'il va le savoir par un biais ou un autre? Et mon conjoint, est-ce qu'il va devoir le dire d'ailleurs à son employeur lui et au nom de quoi? Qui verra tout ça de toute façon? Les placements financiers du couple, où est-ce qu'ils atterrissent réellement? Le crédit d'impôt, de la nounou, des enfants, tout ça, comment ça marche? Et d'ailleurs, tiens, le salaire de la nounou à domicile et ses impôts à elle, c'est moi qui deviens collecteur d'impôts, ça va se passer comment exactement? Est-ce que mes impôts disparaissent si je perds mon emploi en cours d'année ou si je suis augmenté? Est-ce que ça module tout de suite ou est-ce qu'on devra attendre la prochaine déclaration? Est-ce que vous vous êtes reconnu? Est-ce que vous avez d'autres questions aussi? C'est maintenant, tout le monde est là pour y répondre, c'est parti.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Cécile, vous allez démarrer, vous ouvrez le bal, soyez la bienvenue, bonsoir à vous.
Bonsoir. Donc du coup, je suis vaxée, donc on avait une déclaration commune ensemble et mon conjoint, lui, est contractuel CPE, donc de la fonction publique, et du coup ça veut dire qu'il alterne entre des contrats qui peuvent durer 15 jours voire un mois et demi et des périodes de chômage. Donc je voulais savoir comment ça allait se passer pour lui.
Eh bien, merci beaucoup pour cette entrée en matière, Cécile. Il y en a beaucoup, beaucoup des questions de ce genre. Donc peut-être que, avec un peu de chance, on répondra à beaucoup de questions au même moment. Marie-Yvonne Le Brignonnen est là pour répondre notamment à vos questions. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du prélèvement à la source à la Direction Générale des Finances Publiques. Donc tout ça, c'est à cause de vous. Régis Charlier est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
En charge de la fiscalité des particuliers. Laurent Benoudis, vous êtes expert comptable. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis Fabien Cazot est là aussi. Bonsoir Fabien. Vous êtes chef du service économique et social de France Inter. Marie-Yvonne Le Brignonnen, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce qui change pour Cécile, si ce n'est pas grand-chose finalement avec les contrats de son conjoint?
Alors finalement, oui, pas grand-chose ne change. Il y aura, vous êtes pacsés, donc il y aura toujours une déclaration commune. En revanche, ce qui va changer pour votre conjoint qui, je comprends, alterne des périodes d'activité, des périodes d'inactivité, c'est que l'impôt va s'adapter immédiatement. Lorsqu'il sera en activité, qu'il travaillera, il y aura un prélèvement à la source qui sera réalisé sur son salaire. Et quand il sera en période d'inactivité, s'il n'a aucun revenu, il n'y aura pas de prélèvement à la source qui sera réalisé sur son salaire, donc l'impôt sera vraiment contemporain par rapport à sa situation.
Une question connexe sur franceinter.fr, peut-être pour vous, Régis Charlier, qui dit: quand on a deux employeurs, lequel des deux prélèvera l'impôt sur le revenu?
Alors chaque employeur aura effectivement récupéré auprès de l'administration fiscale le taux et l'appliquera sur le salaire qu'il verse à son salarié. Donc les deux employeurs vont utiliser le même taux.
D'accord, mais au bout du compte, je suis pas sûre qu'on ait répondu à la question de notre ami. Au bout du compte, lequel des deux employeurs va le chercher à la source au final?
En fait,
parce qu'il va pas y avoir, il va pas y avoir une addition, si?
En fait, les deux. Le principe du prélèvement à la source, c'est dès qu'il y a une source de revenus. La source de revenus, que ça soit votre employeur, votre caisse de retraite, va prélever du prélèvement à la source sur le revenu qu'il vous verse.
Donc ça fait deux lignes sur, pour dire les choses clairement, ça fait deux lignes sur.
Là, il y a deux employeurs et il y a deux bulletins de salaire.
D'accord. Ok. Donc deux lignes, en fait. Moins temps et moins temps.
Alors,
de
non,
tel employeur
chaque,
et de tel employeur.
Non, chaque employeur ne gère que le prélèvement à la source sur le salaire que lui verse. Il ne se préoccupe pas que vous ayez d'autres employeurs.
Oui, oui, ça j'ai bien compris.
Mais effectivement, donc la somme de tous ces petits prélèvements à la source faits sur vos différents revenus fera en fait le montant mensuel que l'administration fiscale attend comme impôt.
D'accord, mais pardon pour la naïveté de ma question, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux lignes sur la feuille de paye de notre ami là sur franceinter.fr, puisqu'il y a un employeur qui fait le prélèvement à la source et puis l'autre employeur, ou est-ce qu'il y a une addition au bout du
compte? L'addition,
c'est
l'administration fiscale qui le fait.
C'est ça le sens de ma question.
L'administration fiscale qui le fait. Votre employeur, il ne s'occupe que du salaire qu'il vous verse à vous.
On est d'accord. Emmanuel, pardon.
Juste,
monsieur Charlier.
Sur le service gérer mon prélèvement à la source, le salarié pourra aller voir les prélèvements effectués par ses employeurs.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir, excusez-moi. Donc j'aurais voulu avoir une petite réponse parce que je suis assistante maternelle et donc j'aurais voulu savoir comment les assistantes maternelles vont être prélevées à la source à partir du moment et à partir de quand, et en sachant que nos employeurs sont les parents et qu'ils ont déjà du mal à nous faire des fois les bulletins de salaire. Donc, si par exemple on a trois parents, comment ça se passe et à partir de quelle année? Parce que j'ai entendu les ministres dire que ça allait être reculé pour nous. Donc, on fait comment?
Alors, Marie-Vonne Le Brignonnen, comment on fait quand on est nounou et qu'on a plein de parents, comme dit Emmanuel?
Alors, on va parler en fait de 2019 et de 2020. Donc, ce qui se passera en 2020 en cible, c'est effectivement un prélèvement à la source qui sera fait par vos employeurs, c'est-à-dire les parents. Mais vous savez que les parents, ils ont déjà un intermédiaire dans leur relation avec vous, c'est la page emploi et le CESU pour les employés à domicile. Donc, en fait, c'est via page emploi et le CESU que sera le prélèvement à la source. Ça, c'est 2020. Et ce qui se passera en 2019, effectivement, c'est ce qu'a indiqué le ministre, ça ne sera pas CESU et PAJE qui feront le prélèvement à la source parce que le système va être encore amélioré pour qu'il soit encore plus facile à gérer en 2020. Et donc en 2019, ça sera un acompte contemporain, mais qui sera prélevé par la Direction Générale des Finances Publiques. Donc vous payerez bien un impôt contemporain au titre de vos revenus de 2019, mais ça sera calculé et prélevé par la Direction Générale des Finances Publiques sur la fin de l'année 2019.
Est-ce que c'est clair pour vous, Emmanuel?
Oui, juste, moi, par exemple, je suis mariée, donc j'ai un mari qui gagne de l'argent, et donc, comment on va calculer cet acompte en 2019 sur ma déclaration de 2018? C'est sur ce que j'ai déclaré en 2018? Comment ils vont déclarer cet acompte?
Allez-y, Régis Charlier.
Alors, l'acompte, il sera calculé à partir de la déclaration que vous allez effectuer en avril de l'année prochaine. Il y aura une rubrique spécifique par rapport à cette année pour bien différencier les salaires que vous percevez au titre de cette activité, ce qui permettra de vous calculer l'acompte qui sera prélevé sur la fin de l'année, et vous en aurez information de cet acompte, le détail du calcul, sur votre avis d'impôt que vous recevrez à l'été 2019.
D'accord, très bien. Et si jamais, juste une petite dernière
Allez-y,
question.
Allez-y, vous en
si
prie, parce que vous êtes là, Emmanuel.
Si jamais l'acompte était beaucoup plus élevé que ce que j'aurais dû payer. Enfin, est-ce qu'il y a après, il peut y avoir un réajustement ou pas?
Bien sûr, il y aura une possibilité d'ajustement par rapport à votre situation réelle. Hein. C'est vraiment le principe d'un impôt contemporain.
Merci.
C'est-à-dire qu'à dire vrai, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un impôt contemporain.
Alors, un impôt contemporain, aujourd'hui, ce que vous payez en 2018, c'est un impôt sur vos revenus de 2017. Il y a un décalage d'un an.
Bien sûr.
Ce qui fait qu'on peut être amené à payer un impôt trop important par rapport à ses revenus, parce que l'année d'avant, on avait gagné beaucoup d'argent. Un impôt bien contemporain, sûr. Ça veut dire qu'à compter de 2019, on payera un impôt sur les revenus de l'année 2019, donc sur les revenus que vous êtes en train de toucher. C'est en ce sens-là qu'on dit que l'impôt sera contemporain.
Merci Emmanuel, vous avez j'espère répondu aux questions de plusieurs autres auditeurs de France Inter grâce à votre question. Laurent Benoudis, vous qui êtes expert comptable, moi ça me fascine en fait l'idée que chaque cas est un cas particulier, puis c'est tellement important pour nous ce genre de choses. C'est le genre de questions que vous recevez vous aussi, j'imagine, d'aller chercher, vous l'expert comptable, essayer de comprendre. J'imagine que des questions de ce genre, vous en avez tout le temps et partout, non?
Ouais, tout le temps, avec des questions aussi qui concerne les modalités de mise en place du prélèvement à la source pour les entreprises qu'on conseille. Donc on a pas mal de chefs d'entreprise qui se posent des questions sur la manière dont ils vont pouvoir récupérer le taux, est-ce que ça sera comment l'appliquer, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de taux, comment gérer ça pour leurs salariés. C'est-à-dire qu'on rentre dans la relation entre l'employeur et le salarié, et donc c'est sujet à tout un tas d'interrogations dans la mise en œuvre, au-delà du problème de leur propre fiscalité à eux.
Parce qu'il y a beaucoup d'employés qui se posent la question de ce qu'ils devront dire à leurs employeurs, mais finalement il y a plein d'employeurs aussi qui se posent la question de ce qu'ils mettront eux, de ce qu'ils verront eux, de ce qu'ils seront eux au final, non?
Bien sûr.
Et ça a même été sans doute une des raisons des réticences et de tous ces allers-retours sur le calendrier. Les inquiétudes des employeurs, des entreprises ont été, semble-t-il, prises en compte très au sérieux.
Et c'est ça, effectivement, qui a fait cafouiller un moment, selon vous, ces fameux 15 jours. C'est des interrogations qui venaient plus des entreprises, finalement, que des particuliers?
Oui, parce que les entreprises s'interrogent. On a encore des clients qui discutent avec leurs collaborateurs en net. C'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord sur un montant de rémunération nette. Ça se fait beaucoup, par exemple, dans la restauration. On raisonne pas sur des rémunérations brutes, mais sur des rémunérations nettes. Alors, lorsque le net est impacté de l'impôt, évidemment, il faut il faut repenser la manière dont
il faut que le logiciel soit très différent, y compris avec son employeur.
Et lui expliquer que la différence, bah, c'est de l'impôt qui aurait été payé de toute manière par le collaborateur sur son compte en banque et qui maintenant sera prélevé directement sur le bulletin de paye. Donc ça oblige à gérer ça de manière intelligente avec les collaborateurs.
Mais ça veut dire que finalement, les questions qui vous viennent le plus souvent, d'ailleurs les interrogations, ce sont les petites entreprises, en fait, les TPE. Est-ce que dans les grosses, de toute façon, tout ça est avalé de manière assez simple? Alors, parce que pour les salariés, c'est quelque chose d'assez finalement basique, y compris pour nous à Radio France ou des choses comme ça, où les salaires tombent chaque mois. Mais même dans une entreprise comme la nôtre, il y a aussi des contractuels, il y a aussi des CDD, il y a mille choses dans une grosse entreprise, en fait. Le plus facile à gérer, c'est quoi?
Oui, pour les petites entreprises, il y a des difficultés techniques et les experts comptables sont là, en général, pour les accompagner. Dans les entreprises plus grandes, la problématique de la relation salarié-employeur reste la même. C'est-à-dire que lorsqu'on on va faire le virement de salaire à la fin du mois, il sera moins important que ce qu'il était avant la mise en œuvre du prélèvement à la source. Au final, il faut bien le préciser, ça ne changera pas grand-chose pour le salarié qui avant était prélevé le 15 du mois, parce qu'aujourd'hui c'est 80% des contribuables qui sont mensualisés. Donc il était prélevé le 15 du mois d'un montant d'impôt, maintenant ça sera prélevé en moins de son salaire à la fin du mois. Donc il y a un avantage de trésorerie pour le salarié. Mais n'empêche que la rémunération nette, elle, en apparence, a baissé.
Fabien,
et pour les employeurs, ça a un coût, monsieur l'expert comptable, tout travail mérite salaire, évidemment. Exactement. Mais nous, on a entendu même en reportage sur Inter des employeurs qui disaient, voilà, pour moi, ça représente un coût de 150 euros par salarié de passer au nouveau système. Donc c'est un vrai un enjeu financier aussi pour les entreprises.
Oui, alors j'annoncerai pas de prix parce que sinon c'est l'autorité de la concurrence qui va me le reprocher. Mais évidemment, lorsque un client nous pose des questions et qu'on passe du temps pour lui répondre, c'est ce qu'on vend.
Bien sûr.
On vend du temps, on vend de l'accompagnement. Et donc il y a nécessairement auprès de nos clients des prestations complémentaires à facturer. C'est possible.
Alors justement, donc il y a des questions qui viennent de chefs d'entreprise et aussi des questions qui viennent de travailleurs indépendants, dont le cas est parfois un peu différent. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
Et soyez le bienvenu sur Inter, Christophe, allez-y.
Oui, alors j'essaie d'être clair. J'ai reçu donc le montant de mon prélèvement mensuel qui, multiplié par 12, va donner un total très supérieur à ce que j'ai jamais payé comme impôt jusqu'à maintenant. Donc je ne comprends pas comment on est arrivé à ce chiffre. Il n'y a aucune explication sur la feuille. Ça, je trouve ça totalement anormal. Mais avec l'administration, on est habitué. Et deuxième chose, donc ce montant très supérieur, en plus qui est supposé avoir été calculé sur 2017, qui était pour moi une année forte, 2018 va être inférieur. Donc quand je suis allé au centre des impôts, d'abord je suis tombé sur quelqu'un complètement largué qui n'a pas été capable de m'aiguiller sur quelqu'un d'autre. Par email, j'ai pas encore eu de réponse. On me dit qu'effectivement, j'ai lu qu'on peut, donc on va pouvoir ajuster régulièrement son truc, formidable, sauf qu'il semblerait que ça va prendre quand même 4 mois. Le temps que le réajustement soit mis en place, sur quelle base, sur quel chiffre, voilà. Je suis dans le flou total et un peu en colère, puisque pour l'instant, on me réclame beaucoup plus que ce que j'aurais eu à payer.
Merci Christophe. Marie-Vonne Le Brignonnen, d'abord, sur le calcul de Christophe, en fait, fois 12, beaucoup plus que ce qu'il... seulement anticipé, mais payé précédemment.
Bonsoir. Alors du coup, vous l'avez peut-être précisé au début, pardon, je ne l'ai pas entendu. Vous êtes salarié, indépendant ?
Indépendant, je touche des droits d'auteur, je suis photographe, donc c'est très irrégulier. Hein. D'une année sur l'autre, ça peut monter, ça descend, voilà.
D'accord, vous ne touchez que des droits d'auteur en fait ?
Pratiquement, ouais.
D'accord. Et donc, on vous a calculé, l'administration vous a calculé un acompte sur ces droits d'auteur qui seront prélevés l'année prochaine.
Peut-être qu'il y a autre chose, parce que c'est vrai que sur 2017, il y a eu aussi une plus-value suite à une vente, etc. Mais c'est exceptionnel, cette rentrée d'argent. J'ai vendu mon appartement, donc il y a eu effectivement une plus-value, une partie était professionnelle. Donc, elle a été taxée, ça c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle a été prise en compte dans la mensualité. Je ne vais pas vendre tous les ans un appartement.
C'est pas le cas.
Oui,
ça,
alors effectivement, non, elle n'a pas été prise en compte dans le calcul dans le calcul de vos acomptes. Il y a des prélèvements sociaux qui sont prélevés sur cette plus-value, mais il y a pas, ça n'explique pas cette différence. Écoutez, on n'a pas effectivement le détail de votre dossier sous les yeux. Mais effectivement, oui, le mieux, c'est que la date DGFiP, effectivement, vous renseigne. Et on pourra éventuellement échanger hors antenne de manière plus détaillée. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, pour les droits d'auteur, pour les chefs d'entreprise qui sont en bénéfices industriels et commerciaux, en bénéfices non commerciaux, les acomptes qui seront prélevés à titre de 2019, leur calcul, en fait, alors c'est un petit peu schématique ce que je vais dire, mais en gros, c'est effectivement l'impôt que vous deviez payer là, divisé par 12. Alors, vous pouviez avoir éventuellement des réductions et des crédits d'impôt qui venaient minorer le montant de l'impôt total dû. Et effectivement, eux ne sont pas pris en compte dans ces acomptes parce qu'il y aura par ailleurs une avance sur réduction et crédit d'impôt qui sera fait sur début 2019. Sinon, alors effectivement, on a du mal à rentrer dans le détail de votre question parce qu'on n'a pas votre dossier sous les yeux. Mais de manière un petit peu schématique, ça devrait correspondre grosso modo à vos revenus normaux de l'année 2017 divisés par 12. Donc il faut effectivement creuser ce sujet. La seule source de différence que je vois, si vous aviez beaucoup de réductions de crédit d'impôt, par exemple pour une nounou ou pour un dispositif de type Pinel.
Christophe, rien de tout ça, non?
Si, j'ai du crédit d'impôt, mais sauf erreur de ma part, même en retirant le crédit d'impôt, parce que je sais qu'il n'est pas pris en compte, malgré ça, je paierai un montant trop supérieur. C'est-à-dire que si je retire mon crédit d'impôt, je ne devrais pas arriver à la mensualité qu'on me réclame, de toute façon. Et en plus, là encore, effectivement, le crédit d'impôt, j'ai l'impression que c'est moi qui devais voir avancer de l'argent à l'État. J'ai entendu parler de 60%, c'est sur quelle année, enfin bref.
Alors du coup, peut-être qu'on peut préciser sur ce point. Effectivement, sur les réductions et les crédits d'impôt, donc ce qui a été annoncé par le Premier ministre la semaine dernière, donc c'est que les crédits d'impôt, donc service à la personne, garde d'enfants, le ménage à votre domicile, EHPAD, les crédits d'impôt, réduction d'impôt relative au logement et les crédits d'impôt et réduction d'impôt relative aux dons, donc feront l'objet le 15 janvier 2019 et le 15 janvier de chaque année du versement d'un acompte qui sera égal à 60% effectivement des réductions et des crédits d'impôt auquel vous avez droit.
Voilà, comme ça c'est précisé pour ça et on verra avec le cas de Christophe. Peut-être plus tard, vous vouliez intervenir, Laurent Benoudi, en écoutant notre auditeur.
Oui, non, c'est-à-dire que je me faisais la réflexion qu'effectivement la différence devait certainement provenir de ces réductions de crédit d'impôt. Aujourd'hui, si vous voulez vérifier que le montant des acomptes est le bon, il faut prendre le montant de l'impôt brut avant réduction de crédit d'impôt et le diviser par 12. Normalement, les prélèvements qui vont être faits en 2019 doivent correspondre exactement au montant de l'impôt qu'a reçu Christophe sur son avis d'imposition. Dans le système antérieur, enfin qui était en vigueur jusqu'à aujourd'hui, c'était le montant de l'impôt net qui était divisé par 10. Donc si vous n'avez pas de réduction de crédit d'impôt, bah, vous êtes gagnant, puisque évidemment, au lieu d'avoir un dixième, vous avez un douzième, et donc ça doit baisser la mensualité d'impôt. Maintenant, ce système il a été mis en place pour une raison simple, c'est que les crédits d'impôt de 2018 seront remboursés en 2019. C'est une année blanche en 2018, c'est-à-dire que les revenus ne sont pas taxés, mais les crédits d'impôt, eux, n'ont pas été supprimés. Donc on va bien les toucher en 2019. On va les toucher, normalement, au mois de juillet. Mais pour certains d'entre eux, et Mme Le Guignan l'a listé, on aura un acompte de 60% dès le 15 janvier. Donc quand on regarde en fait s'il y a un effort de trésorerie à faire pour le contribuable, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on va toucher d'avance un crédit d'impôt, mais c'est un crédit d'impôt correspondant à l'année 2017, c'est-à-dire puisqu'on n'a pas connaissance des investissements qui ont pu être faits et de la défiscalisation qui a pu être faite par Christophe en 2018. Donc ça, il va percevoir la différence en juillet.
Marie-Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y Marie-Pierre, on vous écoute.
J'avais une question pour ma fille qui est étudiante. Elle a un petit job à temps partiel. Elle n'a jamais fait de déclaration d'impôt. Elle est donc à notre charge et c'est nous qui déclarons ses revenus. Je voulais savoir si elle va se voir appliquer un taux d'imposition sur son salaire, en sachant que les étudiants ont droit à un abattement de 4 000 et quelques euros sur leur déclaration, sur leur revenu en fait imposable. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer.
Merci beaucoup Marie-Pierre. Comment ça va se passer, Marie-Bonne Le Brignonnen?
Alors effectivement, du coup, je comprends que votre fille en fait est donc rattachée à votre foyer fiscal sur la déclaration. Donc, ça n'est pas, je vous rassure, ça n'est pas votre taux qui sera sans doute trop élevé pour ses revenus qui sera appliqué. Donc, si c'est un job étudiant très ponctuel. Qui dure notamment moins de 2 mois. Donc là, pour les contrats courts, il y a un abattement de la moitié du SMIC qui est prévu sur le montant de l'assiette, des revenus qu'elle va toucher, puisque comme il n'y aura pas de taux qui sera transmis par l'administration, ça sera le taux non personnalisé qui sera appliqué. En revanche, si c'est un job étudiant qu'elle effectue quelques heures par semaine ou même quelques heures par mois, elle aura de toute manière certainement un revenu à la fin qui sera suffisamment bas pour que ça soit un taux non personnalisé de 0% qui soit appliqué. Éventuellement, si c'est un job étudiant qu'elle renouvelle tous les mois avec le même employeur et pour lequel elle est bien payée parce qu'elle fait beaucoup d'heures, elle aura, si elle le souhaite, la possibilité d'avoir un taux de prélèvement à la source personnalisé qui correspond à sa situation, qui pourra être calculé par la DGFiP et envoyé à son employeur.
Voilà pour les explications. Merci beaucoup. Tiens, question rapide, réponse rapide, on espère, avant de retourner au standard. Si l'entreprise fraude et ne verse pas l'impôt prélevé, que se passe-t-il ?
Pardon. Alors, si l'entreprise fraude et
qu'elle se trompe, ouais. Parce qu'après tout,
c'est pas tout à fait la même chose.
Alors, c'est pas pareil, on est d'accord.
Ce qui est certain, c'est qu'une fois que l'entreprise elle a prélevé le prélèvement à la source sur votre salaire, vous êtes considéré comme dégagé de vos relations, de vos obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, si elle ne reverse pas, ça devient entre guillemets une affaire entre elle et l'administration fiscale qui va mettre en place des opérations de recouvrement forcé, mais auprès de l'entreprise.
Donc, attendez, que les choses soient très claires. Imaginons que l'entreprise, alors ce qui en général n'arrive pas, mais enfin, l'entreprise fait une erreur en ma faveur et ma déduction au final d'impôt est nettement inférieure, mais moi, j'ai rien fait. J'ai donné ma déclaration et voilà comment ça a été calculé. S'il y a rattrapage, c'est pas moi qui rattrape.
Alors en fait, le prélèvement à la source n'est pas libératoire puisqu'il y a toujours, il y a toujours l'année d'après une déclaration et le calcul d'un impôt définitif. Donc si votre employeur n'a pas prélevé suffisamment de prélèvements à la source, alors je mets de côté ce qui se passera entre lui et l'administration fiscale qui éventuellement pourra lui appliquer des sanctions si cette erreur est trop importante, se renouvelle trop souvent. Vous, la partie qui n'aura pas été prélevée à la source, ben vous le verserez au solde de l'impôt l'année suivante.
Allez, Juliette nous demande, question pratique aussi. Je suis actuellement en procédure de divorce. Nous avons reçu un taux de prélèvement commun. Or, nos revenus sont différents. Comment ça va se passer ? Quand on est en instance, donc en procédure de divorce. Régis Charlier.
Donc là, en fait, pour les événements, les changements de situation de famille qui vont avoir lieu en 2018 et qui n'ont pas pu être pris en compte, hein, puisqu'ils le seront lors de la prochaine déclaration de revenus en avril 2019, dès l'ouverture du service des fonctionnalités pour venir déclarer ces changements de situation de famille en début janvier, le 2 janvier 2019, madame pourra venir déclarer son changement de situation de famille. Là, c'est un divorce, donc on lui demandera ses revenus prospectifs donc et uniquement les siens sur l'année 2019 et on lui recalculera un taux qui personnalisé, tenant compte de sa situation familiale nouvelle.
Sachant que ce qui est déjà possible de faire, c'est d'opter pour un taux individualisé qui sera différent pour elle et son conjoint.
Le taux individualisé qui est choisi par, j'allais dire pas mal, on est entre 5 et 7% en gros des contribuables, la grosse majorité, il y a la grosse majorité d'un côté. Après, il y a le taux neutre qui pour le coup est très peu choisi. C'est quoi exactement le taux neutre ?
Le taux neutre, c'est un taux qui dépend uniquement du montant de votre salaire, peu importe votre situation familiale et vos autres revenus.
Mais qui a intérêt finalement à aller vers le taux neutre ? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a que 1%. Ça concerne qui ces choses-là ?
Ceux qui veulent cacher à leur employeur qu'en fait ils ont d'autres revenus beaucoup plus conséquents que leur seul salaire.
Ça veut dire que quand on a beaucoup de foncier à côté par exemple, ou quand on a des actions en bourse, des choses comme ça qui rapportent des dividendes, c'est ça l'idée ?
Alors effectivement, on peut vouloir souhaiter cacher son taux à son employeur. Un petit point qui est important, je pense, à préciser. La seule chose qu'un employeur va connaître de vous, c'est votre taux de prélèvement à la source. Et un taux de prélèvement à la source, il peut cacher des situations très différentes. Parce qu'à l'intérieur du taux, il y a ce que vous gagnez, ce que gagne votre conjoint, le nombre d'enfants que vous avez, vos charges de famille. Ça, c'est un premier point. Effectivement, vous pouvez souhaiter, pour des raisons qui vous appartiennent, que votre taux ne soit pas transmis à votre employeur, qui utilisera effectivement le taux non personnalisé qui correspond uniquement à votre salaire. Mais ça veut dire que ce taux non personnalisé ne tient pas compte de votre situation personnelle. Par exemple, si vous avez 4 enfants, le taux personnalisé n'en tient pas compte. Et donc là, il y a deux situations. Si ce taux non personnalisé, il est inférieur à votre taux personnalisé parce que vous avez des revenus fonciers, etc., il faudra verser un acompte complémentaire auprès de l'administration fiscale. In fine, chaque mois, vous verserez bien ce que vous devez à l'administration. En revanche, effectivement, il faut être prudent quand on fait ce choix parce que dans la majorité des cas, le taux non personnalisé, comme il ne tient pas compte de votre situation, va être plus élevé que votre taux personnalisé. Et là, vous allez faire une avance à l'administration qui sera régularisée in fine, bien sûr, mais l'année suivante.
Voilà, faut avoir beaucoup, beaucoup de choses à cacher pour faire ce choix-là. Beaucoup de retraités qui nous appellent au 01 45 24 7000. Bonsoir Claudine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Claudine, on vous écoute.
Merci, merci pour vos émissions. Je vous appelle parce que je prends ma retraite, que j'avais décidé déjà depuis un petit moment. Je prends ma retraite au 1er janvier 2019. Je suis médecin libéral. J'ai une activité qui génère un certain nombre de revenus et là je vais me retrouver avec une retraite qui va être beaucoup plus faible bien sûr. Donc qu'est-ce que je vais avoir à payer? Qu'est-ce qu'il faut que je mette de côté dans ma cessation d'activité pour anticiper ou est-ce que je ne vais être que prélevé de ce que je vais toucher au 1er janvier 2019 qui va être ma retraite CARMP et IRCANTEC, puisque j'ai été praticien hospitalier. Voilà, je ne sais pas du tout.
On va tâcher d'y répondre, Claudine, le fameux choc financier, la crainte du choc financier des retraités.
Le prélèvement à la source est fait pour vous, puisque... Vous l'indiquez, vos revenus vont beaucoup baisser en 2019 par rapport à votre situation d'activité professionnelle. Et si la réforme n'avait pas été faite, vous vous serez trouvé en 2019 à devoir payer un impôt avec une retraite beaucoup plus faible sur l'année 2018 où vous avez effectivement gagné beaucoup d'argent comme salarié. Là, ce que va permettre le prélèvement à la source, c'est que comme les revenus sur lesquels va être calculé l'impôt qui va vous être prélevé chaque mois par vos différentes caisses de retraite, c'est la retraite qu'elle vous verse. Donc mécaniquement, votre impôt va diminuer de façon importante, de manière vraiment automatique. Après, ce que vous pourrez souhaiter faire de manière supplémentaire, c'est venir auprès de l'administration fiscale moduler votre taux de prélèvement à la source à la baisse. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui fait l'impôt en France, plus que le taux, parce que les taux finalement sont très écrasés, c'est vraiment ce que vous gagnez. Comme vous, votre revenu va baisser de manière significative, votre impôt va automatiquement baisser de manière significative aussi.
Voilà Claudine, donc le prélèvement à la source, c'est fait pour vous. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Allez-y Hélène, on vous écoute.
Moi je voulais poser une question par rapport au congé sabbatique. J'ai été en congé sabbatique en 2018. Je suis salariée, donc j'ai pas eu de salaire en 2018. Donc comment ça se passe en 2019? Est-ce que je vais être prélevée sur... est-ce que le fait que je n'ai pas travaillé en 2018 va être pris en compte ou pas?
Eh bien, bonne question Hélène. Qu'est-ce qui se passe, Régis Charlier, quand on sort d'un congé sabbatique?
Alors, le taux que vous avez reçu sur votre avis d'impôt cet été, prenez en compte vos revenus perçus en 2017. Donc, si vous n'étiez pas en congé sabbatique sur cette période-là, vous avez effectivement un taux qui a été calculé par l'administration fiscale et qui, si vous reprenez une activité en 2019, va être transmis à votre employeur. Voilà. Donc en fait, dans votre cas là très particulier, vous aurez très très intérêt à aller, dès que vous aurez une connaissance, je veux dire assez fine, de vos revenus 2019, suivant l'activité que vous reprendrez, à aller sur le site Gérer mon prélèvement à la source pour essayer de moduler votre taux en indiquant vos revenus prospectifs sur toute l'année 2019 et avoir un taux qui correspond vraiment à votre situation.
Laurent Benoudi, ça ?
Oui, là, en l'occurrence, c'est pas de chance.
Ouais. Parce que... Donc c'était fait pour Claudine, mais c'est pas fait pour Hélène, le prélèvement à la source.
Non, malheureusement, parce que Hélène, en 2018, vous avez payé des impôts correspondant à l'année 2017. Vous auriez pris votre année sabbatique en 2019, vous n'auriez pas payé d'impôts en 2019. La mise en place du prélèvement à la source, ça implique deux choses. Un impôt qui est contemporain, et ça c'est une vraie souplesse, c'est-à-dire quand on a des revenus qui varient, l'impôt s'adapte automatiquement, et donc ça c'est un vrai confort. Ça règle aussi tous les problèmes de gens qui sont des mobilités internationales, qui travaillent à l'étranger avec un impôt prélevé à la source, et puis qui reviennent en France avec un impôt décalé. On se retrouve parfois avec des années noires où on paye deux fois l'impôt. Mais la deuxième modification importante qu'entraîne ce changement, c'est qu'il y a en 2018 une année blanche. Alors l'administration fiscale, on regarde avec des gros yeux, mais voilà, ils appellent ça l'année de transition. Mais cette année de transition, en fait, ça consiste à supprimer une année d'impôt pour tous les contribuables. Une année d'impôt sur le revenu, c'est 75 milliards d'euros qui sont budgétés, enfin qui sont identifiés par l'administration fiscale comme étant restitués aux Français, comme étant pas prélevés.
Je profite. Allez-y, Marie-Anne Le Brignonnet.
Effectivement, il n'y aura pas d'impôt sur les revenus courants de l'année 2018. Pourquoi il n'y aura pas d'impôt sur les revenus courants de l'année 2018? C'est pour éviter qu'en 2019, vous payiez deux fois l'impôt, à la fois sur ceux de l'année 2018 et sur l'année 2019. Mais il peut y avoir des revenus exceptionnels, par exemple une prime de départ à la retraite, qui, de par sa nature exceptionnelle, elle sera fiscalisée.
Je profite pour rebondir sur ce que disait Laurent Binoudi, sur le fait effectivement que désormais l'impôt étant contemporain, toutes les fluctuations dans les salaires pourront être pris en compte immédiatement. Mais concrètement, ça marche comment? Est-ce que quand on a plusieurs jobs et qu'on en perd un, par exemple, on appelle l'administration fiscale à ce moment-là très vite, et du coup, c'est le mois suivant que l'ajustement se fait? Ça va se passer comment exactement?
Alors, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le principe finalement du prélèvement à la source, c'est qu'il y a un revenu, il y a un impôt, il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'impôt. Donc, vous avez 5 jobs, vous en perdez un. Comme votre employeur ne vous versera plus de revenus par définition, il n'y aura plus d'impôt prélevé. Donc là, ça sera ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'effet assiette. Votre revenu diminue automatiquement, l'impôt payé diminue. En revanche, effectivement, si ce job que vous avez perdu représentait beaucoup de vos revenus, là, vous pouvez souhaiter venir auprès de l'administration fiscale pour déclarer vos revenus prospectifs, c'est ce qu'expliquait Monsieur Charlier tout à l'heure, et venir moduler votre taux à la baisse. D'accord. Mais en revanche, l'effet automatique de la perte d'emploi, elle va se faire immédiatement et de manière vraiment automatique, donc sans aucune intervention.
Voilà, quand on a plusieurs employeurs, quand on a 5 petits jobs, parce qu'en général, quand on en a plusieurs, on n'a pas un... Enfin, ça peut arriver, hein, par ailleurs, mais quand on a plusieurs petits jobs, tout ça se fait normalement, on n'a pas besoin de refaire une espèce de mini-déclaration à chaque fois
tout
que les revenus fluctuent.
Tout ça se fait normalement, absolument.
Alors, en 2017 et les années précédentes, nous dit Jacques sur franceinter.fr, je travaillais et payais mes infos à l'étranger. Je travaille en métropole depuis le 1er janvier 2018. Comment ça va se passer pour moi?
Bien, déjà, il peut ouvrir une bouteille de champagne. Parce que les revenus qu'il va percevoir en 2018 ne seront pas imposables.
Et ensuite?
Et bien, à partir de 2019, il va payer l'impôt sur les revenus de 2019.
Une autre question très très concrète, j'espère que je ne vais pas vous piéger, parce que ça peut... Je suis bénéficiaire d'une rente. Une partie de cette rente provient des Nations Unies à New York et l'autre partie des autorités helvétiques. Comment s'appliquera le prélèvement à la source? Vous avez 4 heures.
On va laisser...
Régis Charlier, c'est pour vous.
Avant effectivement que M. Charlier rentre dans le détail, le principe, c'est que si un revenu n'est pas imposable aujourd'hui à l'impôt sur le revenu en France, il n'y a pas d'impôt calculé, donc il n'y a pas de prélèvement à la source. Et si en revanche, il est imposable, il y a un impôt calculé et il y a un prélèvement à la source. Ça, c'est déjà à la base.
D'accord.
Et maintenant, effectivement, je passe la parole à Régis Charlier, peut-être sur ces sujets.
Bon courage, Régis Charlier, je vous en prie.
On va essayer de répondre le plus précisément possible. Voilà. Sans plus de détails, effectivement, ça va être peut-être compliqué de donner une réponse très précise, mais comme le disait Marie-Yvonne Le Brignonnen, le prélèvement à la source ne change pas du tout les règles de calcul et de l'impôt sur le revenu. Donc si cette pension, cette rente servie par les Nations Unies, comme c'est un organisme international, souvent les revenus d'activité ou de pension sont exonérés, ça restera exonéré, et donc il n'y aura pas de prélèvement à la source dessus. Après, pour effectivement, si cette personne a été travailleur aussi dans la Confédération helvétique, là, il faudrait voir un peu savoir si cette pension est servie aussi par un organisme international où là, elle suivrait exactement le même régime. Si effectivement, elle a été travailleur dans ce pays et ce pays a un système de retraite un peu par capitalisation et différente, qui fait que quand par retraite, vous pouvez toucher un capital et puis après une rente, là, effectivement, ça pourrait être imposé, mais comme... Si elle est versée par la Confédération helvétique, elle a dû le déclarer comme salaire perçu de source étrangère et donc elle serait assujettie, enfin elle paierait son impôt au prélèvement à la source par le biais d'un acompte contemporain.
Une question simple qui nécessite une réponse simple pour notre ami Jean-Bernard sur franceinter.fr. Je suis retraité et mensualisé. Dois-je demander à ma banque de cesser les prélèvements mensuels ou cela se fera-t-il automatiquement?
Alors que vous soyez vous ayez des prélèvements mensuels ou des prélèvements à l'échéance, bien sûr, la DGFiP va résilier elle-même automatiquement.
Il n'y aura pas deux fois de paiement d'impôt,
et
évidemment.
Et donc du coup, tout va s'arrêter automatiquement. Il n'y a aucune démarche à faire de la part des contribuables.
Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux, évidemment, dans ces cas-là, en le disant. Bonsoir Marie-Elisabeth.
Oui, bonsoir madame, merci.
Je vous en prie, allez-y.
Merci de me prendre. Oui, je venais vers vous parce que, voilà, donc on est dans cette situation suivante, à savoir mon mari est retraité, moi je travaille encore dans un organisme public et on a un fils de 18 ans qui est apprenti. Donc les revenus d'un apprenti ne sont pas imposables, donc il est toujours à notre charge et on le met sur notre feuille d'impôt. Mais comment ça se passe au niveau des deux parts et demie?
Comment ça se passe?
Est-ce que ça va être prélevé par rapport à la retraite de mon mari, sur la retraite de mon mari, ou ça va être prélevé sur mon salaire, ou sur les deux, ou est-ce qu'il faudra verser en plus, enfin ça serait plutôt en moins d'ailleurs, puisque c'est une déduction. Donc comment ça se passe?
Eh ben Marie-Elisabeth, on va vous répondre tout de suite, Marie-Vonne Le Brignonnen ou Régis Charlier, comme vous voulez. Allez-y, Monsieur Charlier.
Donc là, en fait, dans la déclaration que vous avez faite au mois d'avril-mai, et avec l'avis d'impôt correspondant et le montant de votre taux, prend en compte en fait l'ensemble des revenus de votre foyer, ainsi que ceux qui sont exonérés, enfin jusqu'à un certain montant pour votre fils qui est apprenti. Donc en fait, ce taux, il va être transmis à la fois à la caisse de retraite pour votre mari et à la fois à votre employeur. Et comme on le disait tout à l'heure, là, en fait, il y a, on va dire, l'assiette, enfin dire le montant imposable que vous avez tous les mois, ben il va être la caisse de retraite va appliquer ce taux et vous aurez une partie de votre impôt sur le revenu prélevé par la caisse de retraite et une partie de l'impôt sur le revenu prélevé par vous, votre employeur. Voilà.
Alors, il reste deux questions, 0145 24 7000. Je voudrais vraiment qu'on y aille. Bonsoir Alain.
Beaucoup de votre accueil, au revoir.
Merci à vous, merci Marie-Elisabeth. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir France Inter. Je voulais poser une question relative à ce que l'on va devoir déclarer chaque année au mois d'avril-mai. Mm-hmm. Puisque en fait l'impôt devient contemporain, en fait le prélèvement va être fait chaque mois sur nos salaires quand on est salarié. Donc est-ce que cette déclaration que l'on va devoir faire chaque année, est-ce que uniquement elle évoquera les changements de situation type état civil, arrivée ou départ d'un enfant du foyer fiscal, divorce, mariage, et ou tout ce qui concerne les réductions d'impôts sur la maison, sur les emplois, sur les emplois à domicile, etc. Et ou est-ce qu'il y aura aussi à déclarer les revenus qui ont été touchés, même si on aura eu un prélèvement lié à cet impôt contemporain?
Merci beaucoup. Alors, les questions sur la déclaration, en fait, est-ce que la déclaration vaut changer? Il y en a plein, donc autant être extrêmement clair. Non, la déclaration, ça reste une déclaration.
Effectivement.
Exactement comme on la faisait
jusque-là. Simplement, il y aurait une nouvelle information à compter de la déclaration de l'année 2020. C'est que les prélèvements à la source qui auront été faits en 2019 sur vos différentes sources de revenus seront préimprimés. Mmh. Comme aujourd'hui, vous avez vos revenus qui sont préimprimés, il y aura une préimpression des prélèvements à la source réalisés l'année précédente.
C'est intéressant parce que la confusion vient du fait que pour les salariés notamment chez qui c'est plutôt facile, puisque de toute façon désormais ce sera prélevé à la source, donc l'employeur sait forcément combien je gagne, donc j'ai plus besoin de le déclarer en fait. C'est de là que vient la confusion chez les gens.
Et ça a été évoqué, vous pouvez avoir des réductions et des crédits d'impôt, vous pouvez vouloir signaler un changement d'adresse, donc on garde je dirais ce rendez-vous annuel avec vous pour continuer à faire le point sur votre situation.
Voilà, une question de conclusion. Pardon Roger, on n'a pas le temps de vous prendre parce que il va falloir y aller, mais juste Laurent Bénoudis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas finalement continué avec le prélèvement mensuel qui avait l'air tellement plus simple, hein, je pense à la question de Roger.
Non, c'est-à-dire que le prélèvement à la source, c'est une vraie modernisation et c'est une vraie souplesse et une vraie sécurité pour les salariés. On a trop de personnes qui ont des revenus qui varient d'une année sur l'autre avec des difficultés de paiement. Quand on parle d'un taux de recouvrement de 98%, il faut savoir que le taux brut, c'est avant mise en recouvrement, c'est 95. C'est-à-dire qu'il y a quand même 5% des gens, c'est-à-dire une personne sur 20 qui a du mal à payer ses impôts. Donc c'est beaucoup. Le fait que l'impôt soit prélevé désormais par l'employeur, on estime que ce sera 99% de l'impôt qui sera collecté et reversé. Donc c'est un vrai progrès à la fois pour les finances publiques, mais surtout pour les citoyens qui verront l'impôt se synchroniser immédiatement avec leurs revenus.
Voilà, bah écoutez, au fur et à mesure, Fabien qui voulait intervenir, mais vraiment, on est sacrément en retard. Au fur et à mesure, j'imagine que les gens finiront par s'habituer à tout ça, à comprendre, mais le nombre de vos questions fait que nous fait dire qu'on devrait refaire un téléphone sonne pas plus tard que demain soir. Allez, merci beaucoup, portez-vous bien.